Vous écoutez
RMC.
L'histoire éclaire notre actualité comme chaque matin et c'est avec Thierry Lenz. Thierry, notre historien ce matin. Dans le budget 2026, le gouvernement a décidé de faire payer les grandes entreprises avec une surtaxe, environ 8 milliards sur leurs bénéfices. Et pourtant, le gouvernement était formel l'an dernier. Ils avaient promis que cette taxe était exceptionnelle.
Oui, c'est en tout cas ce qu'avait promis la ministre du Budget, Amélie de Montchalin, en juin dernier, je la cite, « La surtaxe d'impôt sur les sociétés n'existera plus en 2026 ». Nous sommes en 2026 et la surtaxe survit. Elle survit à cette promesse qui avait pourtant été faite la main sur le cœur.
Une promesse fiscale non tenue, ça c'est pas exceptionnel.
Ah, pas du tout, c'est même une très vieille habitude de l'État en France. On peut même la faire remonter à Philippe le Bel qui régna de...
De 1285 à 1314, comme chacun sait.
Exactement, Apolline. Et on peut dire qu'il est le créateur du fisc, administration promise à un grand avenir. Car des recettes, le royaume en avait besoin à un moment où le roi voulait renforcer son pouvoir sur les seigneurs. Philippe le Bel fit feu de tout bois jusqu'à créer un impôt exceptionnel sur l'Église, le plus important propriétaire de France. Il devait durer 2 ans et en dura finalement 17.
Philippe le Bel fut donc le premier, mais pas le dernier.
Ah, loin de là. Autre spécialiste des impôts exceptionnels, voici le roi soleil, Louis XIV. En 1710, il a besoin d'argent pour financer la guerre dite de succession d'Espagne, qui dure depuis déjà 9 ans. Il décide de créer un impôt sur tous les revenus fonciers. Tout le monde devra payer et le taux est faramineux pour l'époque, 10%. Mais le roi rassure les contribuables, l'impôt sera exceptionnel et ne vaudra que pour 1 an, puis pour 2, puis pour 3, et on ira jusqu'à 7 ans, jusqu'en 1717.
Si je comprends bien, il ne faut pas croire aux promesses d'impôts exceptionnels ou provisoires.
C'est le moins qu'on puisse dire, l'histoire en est pleine, jusqu'à des époques récentes. Tenez, en 1956, Guy Mollet, alors chef du gouvernement, crée la vignette automobile, payable chaque année sur chaque bagnole. Sur le papier, elle sera entièrement consacrée à offrir un revenu minimum aux plus de 65 ans. On l'a parfois appelée la vignette des vieux. On ne peut pas être contre, d'autant qu'on a promis qu'elle ne durerait pas. Et puis patatras, en 1959, non seulement on la prolonge, mais on décide que les recettes de la vignette seront versées au budget général de l'État, en clair noyé dans la masse. Adieu le revenu des vieux, mais on continuera à payer. La vignette sera finalement supprimée en 2006.
C'est ce qui va se passer avec la contribution sur les bénéfices ?
C'est probable, vu la situation actuelle. Et pourquoi ces quelques milliards sur 1 an, puis sur 2, ne feraient-ils pas des petits dans les années suivantes ? Au moins, sur le plan des promesses fiscales non tenues, Madame de Montchalin représente, sans trop le savoir, la continuité de l'État. Elle est, si j'ose dire, l'arrière-petite-fille du trésorier de Philippe le Bel, du contrôleur des finances de Louis XIV et de la longue suite des ministres des comptes publics de nos républiques.
Merci Thierry Lenz, donc l'historien d'Apolline Matin ce matin, qui remontait donc la fabuleuse histoire des impôts exceptionnels en France.